gérant s'est mis en garde le Canada après leurs sanctions. La Cour suprême des États-Unis a jugé que les grands électeurs chargés de désigner le président américain dans le cadre du scrutin indirect pouvaient être sanctionnés si...
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle de sport sur la voix de l'Amérique. Au sommet ce soir, élection à la Fédération ivoirienne de football. La succession de Sidi Diallo est lancée. La nouvelle donne, Didier Drogba est sur la ligne de départ. La CAF a enfin pris sa décision. La CAN 2021 est reportée d'un an. Et pour cause, le Covid-19 a imposé sa loi. Au Bénin, tout est fini. Le comité a surpris tout le monde. Pas de champion ni de relégation. Enfin, en RDC, la SV Club de Kinshasa est désormais au féminin. Bestine Kazadi succède à Tango Fort. Et pour parler de tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants. En direct de Columbus dans l'Ohio, nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Valdo Simbo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawan Dine Kosuro. Bonsoir Lawan.
Bonsoir Élisée.
Bienvenue à tous. L'Assemblée générale ordinaire en prélude aux élections à la Fédération ivoirienne de football a eu lieu à Yamoussoukro. Et si la commission électorale a été installée avec comme président René Diby, quatre candidats se sont officiellement déclarés pour cette élection prévue pour le 5 septembre prochain. Il s'agit de Sori Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba et Paul Kofi Kwadio. Alors, Amine Birouk, finalement, quatre candidats pour la succession de Sidi Diallo. Ça promet.
Trois dirigeants et un ancien joueur professionnel réputé, ça ouvre la voie à la démocratie. On verra maintenant si le verdict des urnes sourira à l'un ou l'autre candidat. Et quel programme, quelle perspective pour relancer le football ivoirien, permettre d'avoir enfin un championnat compétitif, rendre leur lettre de noblesse à des équipes du calibre de la SEC d'Abidjan ou de l'Africa Sport qui ont disparu un peu de la scène africaine, et puis permettre aussi à la sélection ivoirienne d'avoir des résultats beaucoup plus consistants. La période des Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014 est révolue. Il va falloir que la sélection ivoirienne revienne à son meilleur niveau et qu'elle puisse devenir ou redevenir un aspirant à la Coupe d'Afrique des Nations ou à chaque édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vaste challenge, vaste programme et vaste perspective pour les candidats en lice et surtout pour le candidat qui sera élu très bientôt.
Amédine Sy, c'est clair que le favori reste Sori Diabaté.
Tout à fait, Élisée, le favori est Sori Diabaté, mais il faut dire que Drogba a un très joli coup à jouer, mais il faudra que les anciens footballeurs soient avec lui. C'est ça le problème de Drogba, puisque en ce moment, il est en train quand même de boiter campagne pour que tous les anciens se réunissent autour de lui pour aller à la conquête de ce titre de président, puisque Drogba le mérite. Mais il faut voir qu'en Afrique, c'est pas parce que tu as été un grand joueur que tu seras élu président de la fédération. En tout cas, ce sera très très difficile, mais vous avez raison de dire Sori est le favori de cette élection.
Lawal, Didier Drogba aura fort à faire, surtout devant Sori Diabaté.
Oui, il aura fort à faire, mais le plus important, c'est qu'il ait pu déjà obtenir le précieux sésame pour rester sur la ligne de départ. C'était pas acquis d'avancer. Oui. On a été surpris. Et
tout ce qui s'est passé.
Oui, vu au regard de tout ce qui s'était passé, au regard des incompréhensions entre les uns et les autres, qu'il ait pu obtenir ce sésame pour être sur la ligne de départ, c'est déjà un acquis. Maintenant, il lui reste à batailler dur pour convaincre tous ceux qui étaient réticents avant à lui faire confiance. Tous ceux qui aujourd'hui lui ont fait confiance, il doit pouvoir les satisfaire et chercher à convaincre tout le reste. Et Didier Drogba, quand on regarde un peu son carnet d'adresse, je crois qu'il a intérêt à mettre toutes les chances de son côté. Mais avec Sori Diabaté, le favori incontestable.
Le candidat du président sortant, qu'il a déclaré officiellement.
Ça va être très serré, mais c'est déjà heureux qu'il ait pu obtenir sa candidature, faire accepter sa candidature pour être sur la ligne de départ.
On enchaîne avec le comité exécutif de la CAF qui a tenu une réunion par vidéoconférence afin de discuter de l'avenir de cette compétition. Ainsi, pour cause de Covid-19, la Coupe d'Afrique des Nations a été reprogrammée pour janvier 2022. On revient à vous, Amine Birouk. On s'y attendait et la CAF vient de nous donner raison.
Disons, Élisée, que la CAF a répondu à la logique et au bon sens, dans la mesure où elle n'avait que deux solutions. Maintenir la CAN à la date prévue, accélérer le process des éliminatoires au mois de septembre, octobre et surtout novembre, et du coup, éliminer le CHAN, une compétition que beaucoup considèrent comme un cheveu sur la soupe, une compétition bancale, quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce qu'elle n'est pas reproduite sur les autres confédérations ou sur les autres continents. Si la CAF a décidé de tenir parole et de maintenir cette compétition et de la laisser au Cameroun, il était nécessaire de décaler la CAN d'une année, de permettre aux installations du Cameroun de se roder à travers le CHAN et visiblement peut-être à travers la finale de la Ligue des Champions, édition 2020. Et du coup, on se retrouve avec une compétition qui aura lieu la même année que la Coupe du Monde des clubs et que la Coupe du Monde. Ça resserrera un calendrier, ça obligera les sélections nationales à disputer un véritable marathon entre septembre 2020 et novembre 2022, notamment sur notre continent.
Valdo, la patience est devenue camerounaise. Après 2019, les Camerounais doivent encore patienter et cette fois, c'est à cause du coronavirus.
Élisée, il faudra dire que c'est a priori une aubaine puisque n'ayant pas encore donné totale satisfaction à la Confédération africaine de football au sujet des stades, sous menace d'un probable retrait dans leur organisation de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football déjà en 2019, les Camerounais se voient plutôt offert un temps supplémentaire pour en finir calmement avec les infrastructures, notamment les stades et apaiser la CAF. Covid-19 offre aux champions d'Afrique 2017 l'occasion de bien faire les choses, loin de toute pression, et cette fois, c'est sans excuse de leur part. La patience qui rime peut-être avec cette inquiétude de savoir comment s'y prendre 50 ans après, puisqu'il faut remonter en 1972 pour voir les Camerounais accueillir une telle compétition. Au regard de l'histoire écrite pendant ces temps et à l'image de ces stars, les pays de l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a intérêt à être à la hauteur des attentes.
Ahmedine Sy, on est finalement fixé pour cette CAN. Janvier 2023 en Côte d'Ivoire ne serait-elle pas menacée?
Tout à fait, Élisée, ce report de la CAN 2021 était inévitable à cause de l'arrêt de toutes les compétitions à cause de la pandémie. Donc, il fallait s'y attendre. Concernant la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, je pense qu'elle n'est pas du tout menacée, du moins pour l'instant, car le président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmad, est catégorique. Il assure que cette compétition aura bel et bien lieu en 2023. Le patron du football africain a rappelé que ce n'est pas une première car en 2012 et en 2013, la CAF avait enchaîné deux Coupes d'Afrique des Nations. C'était lors du passage des années impaires aux années paires. Donc, on va attendre de voir tout cela, comme disent les Anglais, « wait and see ».
Lawal, décision sage et raisonnable, mais pour les joueurs, ce sera des efforts complémentaires.
Oui, efforts complémentaires parce que on n'aura presque pas de vacances. Il y aura forcément des choses qui vont se passer parce que les éliminatoires doivent être terminés. On va demander des efforts aux joueurs qui vont venir à la CAN peut-être sans grandes conditions physiques. C'est là où ça va être
un peu difficile,
compliqué. Oui. Parce que quand on voit un peu ce qui se passe avec les championnats européens qui ont repris, on sent que les joueurs n'ont pas encore la grande forme parce qu'ils sont restés confinés pendant presque 3 mois. Ils ont repris. Donc c'est avec le temps qu'ils vont monter en puissance. Mais avec nos joueurs africains qui, à un moment donné, seront au repos, vont reprendre les championnats, vont reprendre les éliminatoires, tout combiné, ça va faire un effort supplémentaire forcément pour chacun d'eux. Et au plan physique, on va certainement, à la CAN janvier 2022, on aura forcément des joueurs qui seront en grande forme. Ce serait peut-être la particularité de la CAN 2022, mais on a intérêt à faire la CAN parce que c'est un rendez-vous qu'on a déjà pris l'habitude de prendre et on doit pouvoir l'honorer.
Valdo, finalement, c'est le CHAN réservé aux joueurs locaux qui prend la place de la CAN en janvier 2021. À quoi pensent alors les responsables de la CAF pour mettre autant la pression sur le pays des Lions indomptables?
La Confédération africaine est plutôt restée dans sa logique au travers les championnats d'Afrique des Nations, qu'elle s'efface une idée sur la capacité d'accueil et d'organisation qu'elle doit faire preuve le Cameroun avant qu'elle intervienne la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Je suis plutôt en train de voir la CAF mettre une pression positive dont le Cameroun sera grand bénéficiaire une fois les CHAN a réussi ou encore les quelques imperfections qui seront constatées en 2021 auront pratiquement une année pour les parfaire et ça sera à l'avantage du pays. N'était-ce cette pandémie économiquement, c'est une aubaine d'aligner deux compétitions de cette envergure en l'espace d'une année ou presque. Donc pression de la CAF, oui, mais cette pression est positive aux Camerounais de s'employer pour ne pas abuser de la confiance de la Confédération africaine de football.
Amédine, la victime collatérale est la CAN féminine. À y voir de près, la CAF n'est-elle pas en train de négliger le football féminin?
Vous avez raison, Élisée. La victime collatérale est la CAN féminine qui a été purement et simplement annulée. C'est dommage pour le football féminin. Je pense qu'il y a eu un peu de négligence de la part de la Confédération africaine de football concernant cette compétition qui devait se dérouler cette année. Car nous sommes au mois de juillet et les éliminatoires ne sont pas encore joués. Et puis le Congo-Brazzaville qui devait accueillir cette compétition s'est désisté. Donc ce n'est pas seulement à cause de la pandémie. Il y a eu une négligence quelque part. Maintenant, la CAF va essayer de corriger en organisant quand même la Ligue des champions. Mais ce sera très difficile car en Afrique, on sait que le manque de compétition est clair au niveau du foot féminin. Mais je pense que la CAF va corriger. C'est vraiment dommage pour le foot féminin.
Amine Birouk, la CAF n'est-elle pas en train de se racheter en créant une Ligue des champions pour les femmes après avoir suspendu la CAN féminine?
Disons, Élisée, que le football féminin est un peu le parent pauvre sur notre continent. Et si on élimine une compétition pour raisons sanitaires, c'est un vrai cas de force majeure. Il est nécessaire aussi de renforcer le dispositif de compétition de football féminin sur notre continent. Or, nous avons des championnats naissants un peu partout, des équipes championnes, mais qui n'ont pas l'opportunité de s'étalonner, d'acquérir de l'expérience et de la compétitivité. Du coup, l'idée est excellente. Elle permet de justifier un peu ce chantier qu'est le football féminin sur notre continent et de donner à ces équipes, à ces formations, l'occasion de s'étalonner, d'acquérir de l'expérience, d'avoir des matchs dans les jambes. Ces équipes sont souvent des champions incontestés dans des championnats d'un niveau relativement faible. Le fait de se confronter sur le continent est une excellente idée et on ne peut pas parler de compensation par rapport à une CAN qui a été annulée pour cas de force majeure.
Au Bénin, c'est terminé pour la saison du foot. La FBF a tout suspendu. La saison est annulée sans champion ni relégué. Lawal Dean Kosuro, on prend les mêmes et on recommence.
Tout naturellement, c'était prévisible que ça se passe comme ça parce que la fédération, le comité exécutif n'avait pas grande décision à prendre puisque le gouvernement devrait donner son quitus avant qu'on ne puisse reprendre ou non le championnat. Donc la fédération a été assez sage pour carrément suspendre tout parce qu'il ne faut pas laisser entrevoir un espoir de reprendre le championnat et décevoir ces espoirs-là après. Maintenant, au regard de ce qu'on a observé, on aurait pu faire en sorte que à l'étape où on a arrêté le championnat, qu'on voit un peu, même si on ne peut pas faire reléguer.
Puisque là, presque tous les clubs ont joué les mêmes matchs.
Les mêmes matchs, voilà. Donc, ceux qui sont en deuxième division, qui étaient en bonne posture pour monter, c'est eux qui feront les frais. Parce qu'il y a certains Dynamo d'Abomey, Espoir de Savalou et bien d'autres. Parce que les gens ont bataillé dur, ont investi beaucoup de sous pour jouer les différents matchs. Mais au final, tous ces efforts sont annihilés. C'est ce qui est regrettable. Mais il était important pour la FBF de prendre une décision, ce qui a été fait, et on s'en tiendra à ça.
Au-delà de tout, la saison 2020-2021 va connaître d'importants bouleversements à Laval. Tout club de Ligue 1 et 2 doit désormais avoir une société de gestion avant toute participation au championnat. Écoutons la réaction de Sosène Seflimi. Il est consultant sportif à Cotonou.
En demandant aux clubs de l'élite de créer une société pour gérer leurs actifs, la Fédération béninoise de football veut faire au football béninois un grand bond, un bond spectaculaire dans le monde professionnel. En effet, une société anonyme suppose des actionnaires et une administration performante qui gère au mieux les finances selon une orthodoxie. Seulement, la décision est un peu précipitée et nous risquons d'assister à un grand cafouillage. Ce qui est souhaité, c'est que la Fédération organise un séminaire pour expliquer sa nouvelle vision au club et leur présenter les grandes articulations du projet et puis leur donner un moratoire pour se mettre au pas. Je crois que ce faisant, on irait de meilleures conditions vers la réalisation de ce projet parce que passer de l'amateurisme auquel on a assisté depuis plusieurs dizaines d'années à un professionnalisme du jour au lendemain, ça va être très compliqué.
Laval, réforme judicieuse, mais problème en vue pour les clubs quand on sait comment ils sont gérés.
D'énormes problèmes. Là, la FBF, en voulant régler un problème, en a créé tout un paquet. Parce que quand on se rappelle un peu comment les clubs sont gérés, comment les présidents sont les seuls bailleurs, parfois, de certains clubs, on se dit bien, qui va pouvoir mettre les fonds? Et quand on dit société, il faut des actionnaires.
Voilà.
Ils vont quitter où ces actionnaires-là? Et quand on s'en tient à un certain nombre de clubs où c'est le président seul qui investit, on a fait un effort pour avoir un comité dirigeant de clubs.
Il y a même des clubs qui sont gérés par les maires.
Oui, mais quand on regarde un peu ce qui se passe, on voit que les présidents, ils vont beaucoup plus, les responsables du club, ils vont beaucoup plus pour leurs propres intérêts, non pas pour les intérêts des clubs. Et ceux qui ne trouveront pas leurs intérêts, ce qu'ils pourront investir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a préparé? Quel est le processus qu'on va préparer pour que ces clubs-là deviennent des sociétés? C'est là la véritable difficulté. Parce que la réforme, me semble-t-il, est assez précipitée. On n'a pris aucune mesure transitoire et on va directement à cette réforme. Et je suis en train d'envisager qu'avec cette réforme, des clubs puissent avoir des problèmes. Déjà qu'on a demandé à certaines sociétés, entre-temps, qui auront des réductions d'impôts si elles investissaient dans les clubs. Est-ce que c'est cette réforme-là qu'on a voulu généraliser? Parce que des sociétés l'ont fait et on a vu des sociétés qui ont sponsorisé des clubs et qui ont bénéficié de réductions d'impôts.
Même dans le cyclisme, on a vu certaines sociétés investir.
Est-ce que c'est ça qu'on veut formaliser directement comme ça? On ne sait pas.
Non, ce qui est sûr, la prochaine Assemblée générale va édifier tout le monde.
Oui, l'Assemblée générale va édifier. Mais avant de pouvoir aller à ça, il fallait une période de transition. On n'a pas préparé la transition, on veut y aller directement. Et quand on sait comment fonctionne le foot au Bénin, on a fort à craindre par rapport à cette réforme-là. Elle est judicieuse, je suis d'accord, mais les problèmes vont avec.
Nous allons poser la question à Amine Birouk. Voilà, Amine, au Maroc, tout est déjà professionnalisé. Est-ce le même format comme ça se décide au Bénin?
Au Maroc, les choses sont de plus en plus claires. Il y a eu une loi 30-09 qui date de l'année 2010. Il manquait les décrets d'application. Ils ont été établis peu à peu. Et puis, il y a eu la volonté du président de la Fédération marocaine de football, Fozil Kja, de sortir le football de l'ornière, de la gestion amateur ou professionnelle déguisée, à travers une politique volontariste. Les clubs se sont constitués en société. Généralement, les textes permettent d'avoir des investisseurs à hauteur de 70%, l'association gardant 30%, mais pour l'instant, on n'en est pas arrivé à ce stade-là. C'est l'association qui acquiert ou qui crée la société. Les lois au Maroc permettent d'avoir 4% de la part d'investisseurs à titre personnel et 96% pour l'association. C'est le cas, mais cela va pouvoir accélérer ce process. Désormais, tous les clubs ont le registre de commerce et il se pourrait que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, il y ait des rachats de clubs de la part d'investisseurs ou d'opérateurs extérieurs. On parle même de sociétés étrangères qui pourraient venir acheter. Le Raja de Casablanca serait convoité par des investisseurs des pays du Golfe. Idem pour le CAC de Kenitra qui se trouve en deuxième division et qui serait dans le collimateur d'une société belge. Et puis le Kaoukab de Marrakech qui est également en deuxième division mais qui est un club historique et qui a la possibilité d'avoir la visibilité de la ville de Marrakech. Voilà autant de choses qui vont faire que la saison 2020-2021 sera la véritable saison du décollage du football marocain, que ce soit sur le plan sportif ou le plan économique et financier.
En RDC, le successeur de Gabriel Amissi à la tête de l'ASV Club s'appelle Bestine Kazadi, fille du défunt Kazadi Chichichi, ancien président du Conseil suprême de l'ASV Club. Valdo, que s'est-il passé pour que Bestine Kazadi, malgré son absence à l'AG, soit élue présidente?
Élisée, beaucoup de choses se racontent après l'élection de la dame à la tête de la coordination de l'association sportive Victoria Club. Mais s'il faudra revenir à votre question, c'est d'abord parce que finalement, les organisateurs se sont mis d'accord que la présence physique ne soit pas une obligation pour les candidats. Et cela a ouvert la voie à Bestine Kazadi et à Mboyo Ilumbe dit Pelemongo, tous deux absents du pays le jour J. L'image de son père y serait également pour beaucoup à son élection à la coordination de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. Les duos Tango Fort Kazadi Chichichi a réussi à doter au Dauphin Noir un centre de formation à Kimbondo, une première dans l'histoire du club. Pendant que l'actuelle présidente de coordination était très active, elle était devenue l'œil juridique de l'équipe puisqu'elle détient une licence en droit. Elle était pratiquement l'œil de son père aux côtés du général Amissi Tango Fort, en regardant bien sûr avec insistance les intérêts de son père. Pour certains avertis, la dame a également reçu la bénédiction de Gabriel Amissi, d'où son élection à la coordination de Vita est loin d'être une exception puisque l'ombre de son prédécesseur y demeure encore.
Ahmedine Sy, c'est rare de voir une femme à la tête d'un club masculin, surtout en Afrique.
Tout à fait, Élisée, c'est rare de voir une femme à la tête d'un club masculin, surtout en Afrique. Je pense que c'est une première dans le continent. Pour moi, c'est un signal très fort, hein, après la nomination de Fatma Samoura. Mais ce n'est pas la même chose, puisque Fatma Samoura a été nommée secrétaire générale de la FIFA, alors que cette dame a été élue. Je pense que les femmes ont un rôle à jouer dans le sport, et en particulier dans le football. Je dis vraiment bravo, j'applaudis des deux mains, bravo au Vita Club. Et bonne chance à cette dame. Je pense qu'elle va diriger ce club à merveille.
Lawal Dine Kosuro, une femme présidente de l'ASV Club, quel impact cela pourra-t-il avoir globalement sur le football féminin?
Je n'espère pas grand-chose. Excusez que je puisse être pessimiste, parce qu'elle vient dans un monde où tout est géré traditionnellement par les hommes. Et les hommes auront du mal à lui laisser la main pour fait la promotion du foot féminin. Déjà que par son absence, elle a été élue présidente de l'ASV Club. Cette élection, avec les aspirations des uns et des autres au sein du comité, ça va créer peut-être des frustrations. Et d'ailleurs, on ne veut pas vouloir lui laisser la main pour le travail. Maintenant, elle pourrait réussir sa mission si, de commun accord, tous les membres du comité, tous les responsables des différents clubs à travers le pays lui donnaient la main.
Surtout qu'il y avait un favori, mais à la grande surprise, ce favori a été écarté. Est-ce qu'il n'y aura pas après une crise au sein de cette famille des Dauphins Noirs?
On espère que ça ne va pas créer une crise. Mais le plus important, c'est qu'il faut reconnaître que les gens ont géré le foot pendant longtemps. Elle est venue comme un cheveu dans la soupe. On pourrait dire l'inconnu qui ne connaît pas la maison. Je pourrais le dire comme ça. Je ne connais pas son parcours sportif pour pouvoir juger. Mais fondamentalement, c'est une crise latente qui est créée avec cette élection-là. Mais on espère que les gens vont savoir raison garder pour ne pas aller à cette crise-là. Parce que c'est déjà visible. On est en Afrique et on sait comment les gens fonctionnent. Maintenant, quand on prend le foot féminin, il est balbutiant en Afrique. À elle seule, qu'est-ce qu'elle peut faire si les autres ne lui donne pas la main? Donc il faudra qu'elle fasse amende honorable, qu'elle soit assez humble pour aller vers les hommes, parce que c'est eux qui gèrent.
Surtout qu'elle était absente,
Non, elle va certainement réussir. Les gens ont certainement trouvé en elle un certain potentiel. Elle a peut-être...
Mais son challenger avait un très bon programme, la construction d'un stade personnel pour la SV Club, et la création d'un centre de formation, et puis les logements à l'endroit des joueurs.
Qu'est-ce qui a amené les responsables du club, les actionnaires du club, à opter pour la candidature féminine? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a de petits arrangements, de petites transactions qui ont eu lieu, dont on ne peut pas avoir connaissance, qui ont amené à écarter le favori naturel à la présidence? Mais si tout ça est arrivé, c'est Tango Fort qui l'a créé, parce que sa démission a surpris tout le monde.
Tout le monde,
il fallait quand même continuer par faire vivre la SV Club.
Sporama, c'est fini. Merci Lamadine Kosoro.
Merci Élisée.
Merci aussi à Valdo Simbo Yama depuis Kinshasa en RDC, Amin Birouk à Casablanca au Maroc, et puis Amédine Si du côté de Columbus dans l'Ohio. Tout de suite, une nouvelle édition du journal. Pour ma part, on se retrouve lundi prochain. Au revoir.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les